Un accord politique important qui se base sur des équilibres fragiles qu'il ne faut pas toucher. Le député Nicolas Metzdorf était ce matin notre invité pour commenter le projet d'accord de Bougival. Projet d'accord qui sera aussi au cœur de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir. Vous la retrouverez comme chaque lundi dans ce journal. Le dépôt des autocars arc-en-ciel de Basse-Poya, victime d'un incendie. Plusieurs bus ont été détruits et le ramassage scolaire est fortement perturbé. La mobilisation des habitants du Nord ce matin, ils protestent contre la fermeture des services d'urgence dans les hôpitaux de Poindimier et de Conné. En métropole, scènes de violences urbaines à Limoges et à Béziers. Ce week-end, elles sont à chaque fois liées au trafic de drogue. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal qui se poursuivra par le magazine des sports du lundi. Bonjour Mickaël Juneski.
Bonjour Jean-François.
Nous y parlerons du Tour de France, bien évidemment, fin de la deuxième semaine. Il n'en reste qu'une seule et pour l'instant, Tadej Pogacar plane sur ce tour.
Le Slovène inarrêtable, il vise une quatrième victoire sur la grande boucle avec encore ce week-end deux victoires d'étape pour un total de quatre depuis le début de cette édition. Et surtout, une avance au classement général de plus de 4 minutes sur son premier poursuivant à une semaine de voir les Champs-Élysées.
Et puis en tennis, Loïs Boisson, la Française, confirme sa bonne forme du moment.
Après la révélation, la confirmation, celle qui avait fait sensation à Roland-Garros, meilleure Française dans le tournoi, a prouvé à 22 ans qu'on pourra compter sur elle à l'avenir. Grâce à sa victoire en finale du tournoi de Hambourg, elle a décroché son premier succès sur le circuit mondial et s'installe dans le top 50.
Nous reviendrons bien sûr également sur tous les résultats sportifs du week-end en Calédonie et nous parlerons avec nos invités de basket.
Oui, quelle est la situation des clubs et de la Ligue après l'année 2024 qui a impacté le mouvement du sport? Comment le basket calédonien rebondit et quels sont les prochains grands objectifs pour les clubs, les sélections? Nous recevrons pour en parler Angelo François aussi, l'un des vice-présidents de la Ligue, et Benjamin Guy, coach de Dimbéa et agent de développement basket à la Ligue.
On se retrouve donc pour le magazine des sports dès la fin de ce journal. C'est le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, qui était notre invité du matin à 7h30. Il rentre de Paris où il a participé aux négociations de Bougival et il a signé le projet d'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Après les réserves émises par le FLNKS, il affirme qu'il s'agit bien d'un accord et pas seulement d'un projet d'accord.
C'est un accord politique important qui se base sur des équilibres fragiles qu'il ne faut pas toucher parce que sinon c'est tout l'édifice qui s'effondre et on n'aura plus d'accord. Après, dont l'expression dit projet d'accord parce qu'il n'est pas encore validé par les Calédoniens et ce sera un accord définitif quand les Calédoniens l'auront approuvé par référendum, mais on ne pose pas une signature sur un document de travail, on ne pose pas une signature sur un pré-accord. Jusqu'ici, tous les documents qu'on avait, on ne les signait pas. Celui-là, on le signe parce que c'est l'accord politique. Donc, il faut que le FLNKS puisse assumer sa signature.
Et pour Nicolas Metzdorf, la disposition essentielle de cet accord, c'est sa pérennité. La Calédonie est française et il n'y a pas de référendum d'autodétermination.
Moi, je crois que c'est les deux points, effectivement, qui sont fondamentaux dans cet accord politique. Si on doit retenir des choses, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la France et il n'y a plus de référendum sur l'indépendance. Enfin, c'est quand même assez incroyable quand on y pense. On a toujours vécu avec cette idée qu'il y aurait un jour un référendum sur l'indépendance ou pas. On a voulu nous réimposer ça, d'ailleurs, que ce soit Marine Le Pen ou le président de la République, qu'il fallait faire un nouveau référendum. Et c'est vrai qu'on a été loin, nous, dans les concessions et dans le côté novateur de cet accord parce que, justement, on voulait éviter de reporter sur nos enfants, sur les générations futures, notre propre fardeau quelque part. Et donc on a assumé le fait d'aller aux confins de l'autonomie, mais dans la France, sans plus aucun référendum.
Parmi les autres avancées sensibles pour les partisans de la France, le député de la première circonscription parle de l'ouverture du corps électoral, mais aussi du rééquilibrage du Congrès et des compétences accrues aux provinces. Et quand on lui fait remarquer qu'il y a eu aussi des concessions comme la création d'un État et d'une nationalité ou le transfert possible des compétences régaliennes, il affirme que ce n'est pas un pas vers la souveraineté.
En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a plus de pas vers la souveraineté. C'est fini, on est dans un accord, et c'est dit dans le document, qui est pérenne. En fait, on n'est pas dans une phase transitoire. On n'est pas dans une étape vers quelque chose. C'est fini, c'est notre statut, c'est celui-là. Donc on doit s'en satisfaire. Et donc forcément, on a dû faire pour obtenir ce statut pérenne des concessions notamment sur des concepts. Alors l'État, moi, c'est pas un mot, ça m'a jamais dérangé le mot État, pour rien vous cacher, parce que moi, je suis plutôt un fédéraliste. Pour moi, un État, ça peut faire partie d'une nation. L'État fédéré, l'État intégré, c'est pas forcément l'État indépendant ou l'État associé. Donc le mot État ne me gêne pas à partir du moment où on dit que cet État fait partie de l'ensemble national, comme on l'a précisé dans l'accord. Et ensuite, la double nationalité, est-ce que c'est une nationalité? Et ça, les constitutionnalistes devront répondre à ça. Parce qu'en fait, c'est une nationalité qui dépend d'une autre nationalité. C'est-à-dire que pour être calédonien, il faut être forcément français.
Il reste encore beaucoup de travail sur le plan législatif. Il faut une loi organique pour modifier la date des provinciales. Il faut ensuite modifier la Constitution avant la validation par les Calédoniens et l'adoption de la loi organique spéciale. Comme député, il s'engage à être très vigilant sur la rédaction de ces textes et il va falloir convaincre ses collègues de droite comme de gauche.
Moi, ce que je vais dire à la classe politique nationale, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent leur simagrée. Parce qu'ils ne peuvent pas avoir chantonné pendant 3-4 ans. Il faut que vous trouviez un accord, il faut dialoguer, il faut vous entendre entre vous, il ne faut pas passer en force, il ne faut pas aller au congrès de Versailles dégeler le corps électoral, et maintenant nous expliquer quand on a trouvé un accord, ah bah dis donc, c'est pas bien. S'ils avaient des lignes rouges, les camarades de l'Assemblée nationale et du Sénat, ils n'avaient qu'à les poser avant. Ils n'avaient pas qu'à chanter dans un champ de fleurs que tout est beau, tout est merveilleux. Non mais parce que ça m'énerve, vous voyez ce que je veux dire? Non mais il y a un moment donné, Marine Le Pen, elle parlait de faire un nouveau référendum parce qu'il ne fallait pas atténuer la revendication indépendantiste, il fallait la comprendre. On nous a proposé un État associé dans 15 ans. Manuel Valls nous a proposé de transférer les compétences régaliennes la dernière fois. La gauche, elle ne parle que de décolonisation et de souveraineté du peuple premier. Il y a un moment donné, vous savez quoi, si ça les dérange que dans la Constitution, il y ait le mot État ou le mot double nationalité, il fallait qu'ils assument ces positions-là avant. Donc ça, c'est ce que je vais leur rappeler là-bas.
Une interview de Nicolas Metzorf qui est à réécouter ou à visionner en podcast sur notre site internet rrb.nc. Ce projet d'accord de Bougival est aussi au cœur de la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que l'on retrouve tout de suite.
Alors, c'est un accord ou un projet d'accord qui a été signé à Bougival? En fait, ce sont les deux et la dénomination n'est pas évidente. Le document qui circule largement depuis une semaine s'intitule « Projet d'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ». Mais la page sur laquelle figurent les 19 signatures indique que l'ensemble des partenaires s'engagent à présenter et à défendre le texte en l'état de l'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. En quelques pages, le projet d'accord est donc devenu accord, et c'est bien sous ce terme qu'il a été salué à l'Élysée et par l'ensemble des signataires. Bien sûr que c'est un accord, mais en même temps c'est un projet d'accord, parce qu'il doit encore être finalisé, validé, et qu'il faut notamment vérifier la constitutionnalité d'un certain nombre de points. Cette ambiguïté permet naturellement de jouer sur les mots, et le FLNKS, comme on pouvait s'y attendre, ne s'en est pas privé, en affirmant avoir signé un projet, et non pas un accord définitif. On note toutefois qu'il parle aussi dans son communiqué d'un accord de principe pour avancer sur la trajectoire vers la souveraineté. Un projet d'accord qui est un accord de principe, on s'y perd. Mais qui a pu penser une seconde, connaissant le fonctionnement du FLNKS et la composition du nouveau front constitué par l'UCCCAT, que la validation de l'accord serait une simple formalité? Qui s'attendait sérieusement à ce que sa délégation soit accueillie en héros et congratulée par ses militants? Qui pensait que le FLNKS allait l'approuver sans tergiverser? Il lui faut du temps, des vérifications, des garanties et des assurances pour ses leaders. Pour défendre le texte négocié à Bougival, il va maintenant falloir du courage et du volontarisme de part et d'autre. Les partisans de la France vont devoir expliquer à leur base pourquoi ils ont accepté que la Calédonie devienne un État et qu'il y ait une double nationalité. Les indépendantistes, quant à eux, vont devoir faire admettre que l'on n'est pas dans la perspective d'une indépendance pleine et entière, mais dans celle d'une très large autonomie. Ils pourront toutefois faire valoir qu'ils ont obtenu le transfert d'une compétence régalienne, celle des relations internationales, et que les autres compétences régaliennes peuvent aussi être transférées dans certaines conditions. Ce n'est pas rien. C'est le propre d'un accord ou d'un projet d'accord. Il ne satisfait pleinement personne, puisqu'il est le fruit d'un compromis et de concessions. Et celui-ci a éclos à l'heure des réseaux sociaux, ce qui complexifie encore sa compréhension. Il y a eu beaucoup trop de commentaires, d'interprétations, de digressions de la part de beaucoup trop d'experts, de constitutionnalistes, de spécialistes, et cela crée une espèce de confusion. Il y a aussi trop de précipitation et un peu d'excès de zèle de la part de ceux qui ont commencé à décliner et à détailler l'accord de Bougival comme s'il était gravé dans le marbre. Mais une chose est sûre, le document a été signé par les 18 membres des délégations politiques calédoniennes et par le ministre des Outre-mer. Et il s'engage ainsi, c'est écrit, à défendre le texte en l'état. C'est la position des partisans de la France et c'est aussi celle du Palika. Et puis il y en a au moins un qui est content, c'est Philippe Gomès. Il est d'ailleurs assez facile à satisfaire. En avril, il soutenait le projet Valls d'indépendance association en affirmant que le projet du ministre des Outre-mer correspondait parfaitement au souhait de Calédonie ensemble. Et maintenant, il est ravi de l'accord de Bougival, qui, à l'entendre, est la parfaite traduction du projet de Calédonie Ensemble. On pourrait lui faire remarquer que ce n'est pas du tout le même projet et qu'il ne peut pas se revendiquer des deux, mais on ne va pas le faire. Il est tellement heureux d'avoir enfin pu signer quelque chose. Et puis, ces derniers temps, les bonnes nouvelles sont assez rares pour lui. On sait que le haut-commissaire a pris l'arrêté de démission d'office de ses mandats de membres de l'Assemblée de la province sud et du Congrès. Logiquement, il ne devrait plus signer grand-chose avant un certain temps.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir, vous la retrouvez évidemment sur notre site internet. Vous pouvez aussi la réécouter cet après-midi, ce sera juste après le flash de 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Selon vous, le FLNKS va-t-il finalement valider l'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie que sa délégation a signé à Bougival? Si vous pensez qu'il va le valider, vous tapez 1. Si vous pensez qu'il ne le fera pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Il est 11h41. On va marquer une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, notamment les faits divers.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité sur le territoire et les faits divers avec ce nouveau drame sur les routes. Il s'est produit hier en fin d'après-midi à Canala au niveau de Négropo. Un choc frontal entre deux véhicules sur la RPN 3 a fait 2 morts. Il s'agit du conducteur de l'un des véhicules, âgé de 68 ans, et d'une fillette de 10 ans. Une enquête est évidemment en cours pour connaître avec exactitude les circonstances de cette collision. Et notamment des analyses toxicologiques sont en cours. Et puis, surprise et consternation à Poya. Hier soir, un feu s'est déclaré au dépôt d'autocars situé à Basse-Poya. Les dégâts sont considérables, Mickaël Genesky.
Oui, l'incendie s'est déclaré vers 22h, là où stationnent les bus arc-en-ciel qui assurent notamment le ramassage scolaire. 4 véhicules ont entièrement brûlé. 2 autres ont également été impactés, vitres brisées, ce qui les rend inutilisables aujourd'hui. L'heure est au constat pour le transporteur, avant que des solutions à court terme puissent être mises en place, notamment pour les familles de Poya. On écoute Evelyne Gouroitu, maire de Poya.
Désolation complète, hein, et puis je veux dire, voir ce qui est arrivé, donc au niveau de l'entreprise, car brûlé dans la nuit. Ce matin, le transport, on a pu assurer qu'une partie, ils ont pu assurer pour les collégiens et près de 131 gamins qui, du primaire, qui n'ont pas pu être transportés. Hein. Donc, l'entreprise fait au mieux pour que d'ici demain, on puisse reprendre, en fait. Comment ils vont s'organiser? Ils nous tiennent au courant pour que d'ici fin de, on va dire dans l'après-midi, on puisse informer les parents. Ça s'est passé donc la nuit. Il y avait un gardien, mais bon, il n'a rien vu, ni on, enfin, je veux dire, il n'a pas vu. Donc, il dit donc, par contre, c'est bien 6 bus qui ont pris feu.
Et c'est une équipe de la sécurité civile qui a dû intervenir dans la soirée d'hier avec notamment 2 camions pour stopper au plus vite la propagation des flammes dans des conditions difficiles, nous a dit Philippe Boimard, responsable de l'intervention.
Il y avait 5 pompiers de la sécurité civile avec 2 camions, des gros porteurs, parce qu'à proximité, effectivement, on n'a pas d'eau. Donc il a fallu faire des noriatos pour pouvoir maîtriser l'ensemble du sinistre. Ça reste quand même une intervention très particulière parce que bon, on touche encore un outil économique, mais au-delà de ça, la difficulté, ça a été le temps d'intervention, sachant que l'équipe est intervenue depuis Coné, comme il n'y a pas de pompiers sur la commune de Poya. Donc effectivement, au départ, si on n'avait qu'un seul bus qui brûlait, on a pu se retrouver avec au moins 3 bus et d'autres bus qui ont été touchés par les flammes. Donc il faut compter ce temps de trajet et qui fait que derrière, forcément, on mettra plus de temps à éteindre, il y a un impact plus important sur ce qui a brûlé. Au-delà de ça, il y a aussi la partie population qui vit aux alentours, donc qui peuvent être impactées avec des difficultés respiratoires, etc. Donc c'est pour ça qu'on l'espère, hein, qu'il n'y ait pas d'autres sinistres de ce genre, pour éviter autant la partie santé que la partie économique également aussi.
Et donc la première conséquence de cet incendie, le service de ramassage scolaire des maternelles et des primaires, vous l'avez entendu, n'a pas pu être assuré aujourd'hui. Les trois véhicules de la flotte qui restent indemnes ont tout de même pu procéder au ramassage des collégiens de Népouille et des Tribus. Par ailleurs, une enquête a été ouverte par les gendarmes.
D'autre part, la gendarmerie tente toujours de retrouver les incendiaires de Plastinor. La société spécialisée dans la vente de tuyaux a été victime d'un incendie dans la nuit de samedi à dimanche à Pointe-Boute. Près de 500 mètres carrés ont été consumés par les flammes, ce qui correspond à toute la surface de l'espace vente. Les pompiers ont maîtrisé l'incendie aux alentours de 5 heures du matin après plusieurs heures de lutte acharnée. La piste criminelle est privilégiée, des témoins ayant aperçu 4 individus prendre la fuite après le départ de l'incendie. Mobilisation ce matin à Conné des administrés des communes limitrophes des centres hospitaliers de Point-d'Imier et de Coumac. Ils veulent dénoncer la fermeture des urgences depuis le début de l'année. Des populations qui demandent la réouverture des urgences de Point-d'Imier et Coumac. Une délégation a été reçue par Valentine Rissouquet, élue en charge de la santé et de la direction des affaires sanitaires, sociales, de la prévention et de la solidarité de la province Nord. La délégation a également été reçue par le directeur du CHN, Joachim Tutugoro.
Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas plus de réponses que celles que j'ai déjà données, donc, sur des communiqués mensuels que je fais, où je fais état du maintien de la fermeture des urgences de ces services-là. C'est simplement, c'est toujours l'effectif, les ressources en infirmiers qui nous font défaut. Donc, qui font qu'on ne peut pas ouvrir, donc, les urgences de Point-d'Imier et de Coumac. Et les ressources dont je dispose, je les maintiens concentrées sur Conné pour continuer à faire tourner Conné, qui n'est plus que le seul établissement où nous avons une urgence dans le Nord. Et Conné parce que le gros des effectifs, le plateau technique, que ce soit la chirurgie, la maternité, avec des chirurgiens traumato, viscéraux, chirurgiens obstétriques, donc nous avons le scanner, le service des urgences ici. Donc il faut coûte que coûte maintenir cet outil-là ouvert. Donc avec le niveau d'équipement dont ils disposent, que n'ont pas les deux autres petits hôpitaux de Coumac et Point-d'Imier, et qu'on ne peut pas sacrifier celui-ci pour ne rien avoir du tout.
Joachim Tutugoro, le directeur du centre hospitalier du Nord, des propos recueillis par Kelinda Boicou. Et puis toujours dans l'actualité en Nouvelle-Calédonie, notez en bref que les élus du Congrès se retrouvent cet après-midi. Ils vont étudier notamment un projet de loi du pays sur le transport des matières dangereuses et une proposition de loi du pays incluant des mesures de sauvegarde économique et de reconstruction. Il est 11h48, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, ce sera l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Votre 4x4 demande de l'aventure ? Chez Calais Pneus, choisissez BF Goodrich, la référence des pneus 4x4 tout-terrain en Calédonie. Jusqu'au 23 août, moins 20% sur tous les pneus 4x4 BF Goodrich. Changez, roulez, explorez avec Calais Pneus PK4 et Conné. Visitez notre page Facebook.
Le Salon du Tourisme revient le samedi 26 juillet de 9h à 19h au Parc Brunelet à Nouméa. Profitez de l'entrée gratuite pour découvrir les loisirs et les activités touristiques en province sud et bénéficiez d'offres exceptionnelles. Animations, concerts, show cooking, food court et espaces pique-nique seront au rendez-vous. Plus d'informations sur le site de sudtourisme.nc, un événement organisé par l'agence d'attractivité Sud Tourisme.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Bodin.
Avec plusieurs scènes de violence ce week-end et à chaque fois liées, semble-t-il, au trafic de drogue. La dernière en date a eu lieu à Béziers. Les policiers et les pompiers sont tombés dans un véritable guet-apens. Le récit de Marco Bongrand pour Europe 1.
Les pompiers accompagnés des forces de l'ordre sont intervenus pour un feu de véhicules et de poubelles. À leur arrivée sur place, les policiers ont été pris à partie par une cinquantaine d'individus, la plupart cagoulés, certains sur les toits des immeubles. Ils avaient eux-mêmes appelé les secours. Pour Michel Toris du syndicat France Police, c'est un véritable guet-apens d'une rare violence.
Ce feu a clairement été allumé pour attirer les pompiers et les policiers dans ce quartier et les attaquer de manière totalement délibérée et organisée. Il y a eu des tirs tendus mortier sur les collègues. Donc il y avait véritablement une volonté de blesser, voire de tuer les représentants de l'État.
Un policier a été légèrement blessé. L'émeute est stoppée lorsqu'un tir de mortier embrase l'appartement voisin d'une famille. Il a été entièrement détruit, mais une femme et ses trois enfants ont pu être secourus. Un nouvel accès de violence, sans doute en représailles suite à d'importantes saisies de stupéfiants et plusieurs interpellations ces derniers jours.
Le choix d'attaquer directement ces services de l'État pour avoir une emprise criminelle totale sur ces quartiers qui sont des points financiers extrêmement importants pour eux, puisqu'un parfois une deal peut rapporter plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour.
Aucune interpellation n'a eu lieu pour le moment. Les assaillants encourent jusqu'à 10 ans de prison.
À Limoges, le calme est revenu dans le quartier de Val-de-Laurence en ébullition depuis le 14 juillet. La violence est toutefois montée d'un cran dans la nuit de samedi à dimanche avec des voitures incendiées, des automobilistes agressés et des forces de l'ordre prises à partie là aussi. Le calme est revenu depuis le déploiement de la CRS 82 et comme à Béziers, cette violence s'enracine sur le trafic de drogue. Écoutez le maire d'Hiver Droite de Limoges, Émile Roger Lomberti.
Ils étaient organisés, ils étaient équipés avec des mortiers en quantité, ils avaient préparé les cocktails Molotov, ils avaient préparé les pierres, ils ont réussi à brûler une voiture, ils ont détruit la voiture d'une étudiante et les personnes que j'ai rencontrées ont vraiment eu le sentiment qu'on en voulait à leur vie. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, nous avons atteint un degré qui est celui où les bornes appartiennent aux trafiquants et aux idéologues de tous bords et que cette jeunesse, ce sont des soldats perdus de la République. Il faut absolument que nous mettions de la police en permanence dans ces quartiers. On est vraiment dans des sociétés de droit très particuliers. C'est le droit du trafic qui s'impose. C'est les règles du trafic.
Émile Roger Lomberti, le maire de Limoges. C'est une première. Une pétition a recueilli plus de 500 000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale. Cette pétition concerne la loi Duplomb, récemment adoptée par les députés, qui est censée assouplir les contraintes qui pèsent sur le métier d'agriculteur. En moins de 10 jours, cette pétition a totalisé près d'un million de signatures. Qu'est-ce que cela implique? Les explications de Maïlène Trémollet.
C'est une situation inédite. Le seuil des 500 000 signatures nécessaires pour l'ouverture d'un débat au Palais Bourbon a été franchi. Concrètement, la décision revient désormais à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale de choisir de classer cette pétition ou d'organiser un débat sans remettre en cause dans tous les cas l'adoption de la loi. Si ce débat avait lieu, il serait avant tout symbolique puisqu'il ne serait pas suivi d'un vote et qu'il porterait uniquement sur la pétition en elle-même et non pas sur le texte du plomb. Toujours est-il que cela permettrait aux opposants du texte très soutenu par la France Insoumise ou encore les écologistes, de dénoncer le parcours expéditif du projet de loi au Palais Bourbon. Mais dans les faits, rien ne présage d'une remise en cause effective de la loi adoptée le 10 juillet dernier. Alors ses opposants s'accrochent à d'autres recours, comme celui du Conseil constitutionnel, par exemple, saisi dès le lendemain de l'adoption du texte. Et là encore, la gauche espère que les sages dénonceront un vice de procédure durant le processus législatif. Une option peu probable, mais plus réaliste que la pétition pour empêcher la promulgation définitive de la loi Duplomb.
Toujours à l'Assemblée nationale, le Parti socialiste se prépare à toutes les éventualités, y compris à celle d'une dissolution. Le Premier ministre pourrait être contraint à la démission lors de l'examen du budget au mois d'octobre. Il faut donc envisager tous les scénarios, a expliqué Pierre Jouvet, le secrétaire général du Parti socialiste, au micro de nos confrères d'Europe 1.
Il s'agit de regarder les choses en face. Si François Bayrou est censuré et qu'il tombe, le président de la République, comme il n'y aura pas de majorité miracle à l'Assemblée nationale, n'aura pas beaucoup de leviers devant lui. Et celui de la dissolution peut en être un, puisque depuis le 16 juillet, il peut l'activer. Ce que nous souhaitons au Parti socialiste avec Olivier Faure, c'est que pour le début de la séquence budgétaire, nous soyons prêts avec des candidats identifiés dans les 577 circonscriptions, avec un travail programmatique et des propositions qui seront faites aux Français. Et ce que nous disons de manière très claire, c'est aussi pour passer un message au gouvernement comme au président de la République. Les socialistes n'ont ni peur de retourner devant les électeurs, ni peur de censurer et de faire tomber un gouvernement qui propose une politique injuste qui va faire du mal à notre pays.
Pierre Jouvet, secrétaire général du Parti socialiste. L'actualité à l'étranger. La semaine dernière, Israël a bombardé plusieurs sites en Syrie, alors que les Druzes, que Tel Aviv s'est engagé à protéger, étaient victimes de violences dans le nord du pays. Le président syrien par intérim, Ahmed al-Shara, s'est de nouveau engagé, comme il l'avait fait lors de sa prise de pouvoir, à défendre les minorités de son pays. Mais pour l'instant, et malgré son passé de djihadiste à d'Al-Qaïda, il est soutenu par les États-Unis et les dirigeants européens lui manifestent une certaine clémence, ce qui est une erreur, estime Fabrice Balanche, le directeur de recherche à l'Université Lyon 2.
La France, l'Europe sont extrêmement silencieux parce que ce qui se produit en Syrie aujourd'hui remet totalement en cause le discours qu'on a eu depuis la chute de Bachar el-Assad. Mais là, ce qu'il faudrait qu'on se rende compte, c'est que ce pouvoir a une stratégie d'épuration ethnique et qui veut installer un pouvoir islamiste en Syrie.
Fabrice Balanche, qui est donc directeur de recherche à l'Université Lyon 2.